Chapitre 52. Après s'être nettoyé de tout ce sang, Nietzsche alla chez le sorcier de chair pour voir où en était Nathan. L'air très content de lui, André l'invita à entrer. Débordant d'énergie, il entreprit de marcher en rond autour de la table où reposait son patient. Mince et pourtant musclé, ses cheveux blancs lui faisant comme une corolle, Nathan était aussi pâle et inerte qu'un mort. Remarquant du sang séché sur son cou et sous ses oreilles, la magicienne ne parvint pas à dire s'il était à lui, venait du combat contre les animaux ou appartenait à Ivan. Sur le torse du vieil homme, d'autres taches de sang ne parvenaient pas à dissimuler la longue zébrure qui courait de sa gorge jusqu'au centre de sa poitrine. On dirait une très ancienne cicatrice, mais l'intervention date de ce soir. Un puissant sort de guérison?
Bien plus que ça, magicienne. Comme j'ai dû t'en informer, je suis un très grand sorcier. J'ai modelé la chair de Nathan et reconfiguré ses organes pour qu'il dispose de nouveau d'un cœur de sorcier. Un nouveau cœur. Je suis sûr qu'Yvan n'y verra pas d'objection.
Le corps de Nathan acceptera-t-il un cœur étranger? S'il avait eu le choix, le vieil homme n'aurait sûrement pas choisi Yvan comme donneur.
Tout va dépendre de son Han. J'ai établi une carte complète de son don. Et j'ai repéré toutes les connexions. Après avoir remplacé le cœur de Nathan par celui d'Ivan, j'ai restauré tous les liens requis. En théorie, à son réveil, ton ami sera de nouveau en possession de son don, et le nouveau cœur battra fièrement dans la poitrine d'un grand sorcier.
Avec un grand sourire, André suivit du bout d'un index la cicatrice qui serpentait sur le torse de Nathan.
Un de mes chefs-d'œuvre! Peut-être le plus grand devant les ours de combat ou le guerrier bicéphale. Quel exploit, vraiment!
Sous le regard glacial de Nathan, André devint soudain pensif.
Non, pas mon plus grand. Rien ne peut surpasser mes guerriers Xax. Ces trois-là sont spéciaux. Dommage qu'ils n'aient jamais servi.
Ignorant de quoi parlait le sorcier, Nietzsche n'avait aucune envie de l'apprendre. Quand saurons-nous si ça fonctionne?
Notre cher ami a vécu une expérience traumatisante. Moins que celle d'Ivan, bien sûr, mais pour l'instant, il est plongé dans un sommeil réparateur. En lui, le Han doit se redéployer et reprendre la première place. Ensuite, il faudra que Nathan s'approprie son nouveau cœur.
Nietzsche garda les yeux rivés sur son ami. Un instant, elle envisagea de rester pour veiller sur lui. Au cas où André aurait en réserve une de ses expériences bizarres et contre nature. Bannon se serait lui aussi porté volontaire pour rester, solide, à portée de la main. Mais le jeune homme ne s'était toujours pas montré. De plus en plus mal à l'aise et inquiète, la magicienne décida de trouver Amos et de le forcer à lui répondre.
Qu'as-tu fait du cadavre d'Ivan?
Le sorcier de chair leva le menton. Dans la mêlée, sa barbe s'était en partie détressée, mais il ne semblait pas s'en soucier.
« Le cœur retiré, la dépouille ne me servait plus à rien. En principe, un membre du Douma mérite des funérailles d'État, mais j'ai voulu rendre à notre cher défunt un hommage mieux adapté à sa personne. Haché en fines tranches, son corps servira à nourrir les bêtes de combat survivantes. Un juste retour des choses, non ?»
Ce n'est pas mal trouvé, en effet, souffla Nietzsche. Sous ses yeux, la poitrine de l'ancien prophète se soulevait à peine à chaque inspiration. La magicienne s'inquiétait pour l'homme, pour le sorcier et pour son ami.
Combien de temps dormira-t-il?
Jusqu'à ce qu'il soit guéri.
Et quand sera-t-il guéri?
Quand il aura assez dormi.
Nietzsche se demanda si elle pourrait attendre jusque-là. Une fois rétabli, le sorcier Nathan serait un précieux allié. En attendant, la magicienne allait devoir mettre au point un plan. Même sous le linceul, il devait être possible de libérer Ildakar. En lâchant en ville une bonne partie des animaux, Masque Miroir avait provoqué le chaos. Mais alors que ses partisans évoluaient parmi les bêtes, il ne s'était pas montré, tout en observant les choses de loin, aurait juré Nietzsche. Comment aurait-il pu résister à un spectacle pareil? Mais à quoi était censée servir cette action spectaculaire? En réalité, ça n'était qu'une escarmouche sans importance. Du remue-ménage qui avait provoqué la mort d'un sorcier et de tous les animaux impliqués, mais du remue-ménage quand même. Et cette manœuvre absurde ne semblait même pas faire partie d'un plan complexe.
À la place de masque miroir, Richard aurait développé une stratégie visant à renverser la tyrannie. Si le rebelle d'Ildakar en avait une, il la cachait bien. Nietzsche éprouva soudain un besoin instinctif de se défendre. D'abord confuse, elle comprit vite que ce sentiment ne venait pas d'elle, mais qui avait pu le lui envoyer? Nathan, sur sa table d'opération? Non, elle l'aurait reconnu même lors d'un contact si bref.
« Sorcier André !»
cria une voix dans le couloir.
« Une autre bête a été repérée non loin d'ici !»
Un garde en uniforme déboula dans le studio, le souffle court à force d'avoir couru.
« Le haut capitaine Stuart a besoin de vos lumières !»«
Un autre animal ? N'avons-nous pas tué tous ceux qui s'étaient échappés ?»
Nietzsche sentit dans un coin de son esprit un mélange de peur et de méfiance. Soudain, elle sut de qui ça lui venait. « Mara !»
« Il s'agit d'une panthère du désert solitaire, mais marquée au fer par le dresseur en chef. Je ne sais pas où sont les autres membres de sa troca, mais nous devons les capturer vivants. La sauvereine les veut pour les combats à venir dans l'arène. »«
Si elle m'en laisse le temps, je lui en fabriquerai d'autres, » assura André.
Une nouvelle fois, le sorcier de chair était prêt à passer d'un sujet d'expérience au suivant. Quoi qu'il en soit, Nietzsche devait aller retrouver sa sœur d'élection.
« Je m'occupe de cette affaire. »
dit-elle à André.
« Reste auprès de Nathan et fais ton mieux pour qu'il guérisse vite. »
André eut un geste nonchalant, puis il se pencha pour parler à l'oreille de Nathan.
« Pourquoi perdrais-je mon temps à chasser des félins? Ce ne sont pas mes créatures, sais-tu? Nous avons capturé des panthères pour les forcer à se reproduire, puis nous avons élevé les petits. Yvan a adoré faire ça, si je m'en souviens bien. Maintenant, ses apprentis prendront le relais. »
Trois dresseurs dotés du don nous aident déjà à remettre de l'ordre dans les tunnels,
annonça le garde.
Mais ils auront besoin d'aide.
Je te suis,
s'écria Nietzsche. Subjugué par son autorité, l'homme se mit au garde à vous.
Allons, bouge-toi,
siffla la maîtresse de la mort. Dans ses rêves, Nietzsche avait vu la ville à travers les yeux de sa sœur panthère. Malgré son insistance, Mara avait refusé de partir, et voilà qu'elle était piégée sous le linceul, coupée du reste du monde et du temps. Des nuits durant, la magicienne avait senti sur sa langue le goût des rats et des chiens que sa sœur tuait pour subsister. Mais la panthère rêvait de grandes plaines grouillant d'antilopes et de daims. Piégée dans la cité où elle était née et avait grandi sous la menace et la torture. Contre ses propres intérêts, Mara était restée pour ne pas abandonner sa sœur humaine, ou panthère, Nietzsche n'aurait pas juré qu'elle faisait la différence. Emprisonnée et entourée de tortionnaires, elle appelait la magicienne au secours. En même temps qu'un torrent de haine, Nietzsche reçut de Mara quelques images qui lui expliquèrent tout. Par hasard, quelqu'un avait découvert sa tanière diurne. En ce moment même, des gardes et des dresseurs approchaient pour la capturer. Bien entendu, elle était prête à se battre et à tuer. Suivant les ondes que lui envoyait sa sœur, Nietzsche dépassa le garde et courut jusqu'à un grand entrepôt à grains rempli de sacs de toile. Des épis de maïs séchaient dans un gros conteneur que les rayons de soleil, filtrant des planches disjointes, faisaient briller au milieu des colonnes de poussière. Alors qu'elle entrait, le garde sur les talons, les yeux de Nietzsche s'adaptèrent instantanément à la pénombre. Les bras croisés, comme s'ils étaient vraiment un couple uni et fusionnel, Thora et Maxime supervisaient les opérations. Devant eux, trois apprentis dresseurs détenteurs du don avançaient prudemment entre les sacs et les wagons. Très mal à l'aise, ils semblaient peu sûrs de leurs compétences. Habitués à travailler avec Yvan, ils avaient du mal à prendre des initiatives, mais il leur faudrait bien s'y faire. Arborant son épaulière rouge, le haut capitaine Stuart beuglait des ordres à ses hommes, chargés de pousser la panthère dans un coin. Les types en armure du premier rang brandissaient leur épée. Derrière eux, trois arbalétriers se tenaient en embuscade.
« Ne tuez pas cette bête !»
dit la souveraina.
« La nuit dernière, nous avons perdu assez d'animaux comme ça. Il nous faut cette panthère pour la reine !»
Nietzsche avança sans se demander si quelqu'un allait se dresser sur son chemin. Atteignant les arbalétriers, elle en prit un par le bras.
« Fichez-lui la paix. Cette panthère est à moi, elle n'a rien à voir avec Ildakar. »
Thora écarquilla les yeux de surprise.
Que fais-tu là, magicienne? Et que racontes-tu? Cette bête est à nous. Si elle doit mourir, ce sera face à un de nos gladiateurs. Après ce qui est arrivé cette nuit, les gens auront besoin de beaux combats pour oublier leurs soucis. Le linceul étant de retour, la vie doit revenir à la normale. Si tu décidais de nous aider, ce serait judicieux.
Nietzsche se tourna vers la Sovréna.
Tu ne peux pas envoyer cette panthère dans l'arène. Elle n'est pas à toi.
Maxime eut un rire glacial. Et où devrait-elle aller d'après toi? Puisqu'elle ne peut pas quitter Ildakar, devrions-nous la laisser errer dans les rues? Sentant une décharge de colère primale dans son corps, Nietzsche repéra Mra, couchée entre les hautes piles de sacs dans un coin. Avec un rugissement, elle bondit sur une poutre et se ramassa sur elle-même, foudroyant du regard les hommes qui la traquaient.
« Je prendrai soin d'elle, » proposa Nietzsche, faute d'une meilleure solution. « Elle est ma sœur d'élection. »«
Ridicule !»
s'écria Thora.
« Cet animal appartient à Ildakar. Tes compagnons et toi n'êtes que des pièces rapportées. »
Nietzsche est une invitée aussi charmante que perturbante, intervint Maxime onctueux. Comme la panthère, où pourrait-elle aller maintenant que le linceul est activé? Elle ne peut pas partir d'ici.
Il y a plusieurs façons de s'en aller, siffla Thora.
Sans quitter Mra des yeux, les dresseurs se déployaient lentement. Leur chef, un type nommé Dorbo, prit la parole.
Avec le don, nous pouvons la forcer à reculer, puis la capturer.
Deux des types brandissaient un long bâton muni d'un nœud coulant, et le chef était armé d'un fouet et d'un gourdin orné d'une rune.
« Dès que nous l'aurons forcé à descendre au niveau du sol, » dit un des types au nœud coulant, « il sera possible de l'immobiliser. »«
Tout dépend de la souffrance qu'elle peut encaisser, » modéra son compagnon. « Avec les runes qu'elle arbore, un sort d'étourdissement ne fonctionnera pas. »«
Même sans magie, Mamassu fera largement l'affaire. » intervint Dorbo.
« Pas question de la frapper !»
ordonna Nietzsche. Thora la foudroya du regard.
« Nous ferons ce qui s'impose pour le bien d'Ildakar. S'il le faut, j'ordonnerai qu'on te ligote, magicienne. »
Maxime ricana, ravi à l'idée de voir ça.
« Eh bien que tes hommes essaient si ça leur chante. Mais après la mort d'Ivan, à ta place, je ne sacrifierai pas mes autres dresseurs. Qui te resterait-il pour contrôler les animaux ?»
Alors que Maxime s'amusait franchement, les arbalétriers se préparèrent à tirer. Très attentif, le haut capitaine Stuart prenait garde à ne pas lancer d'action précipitée. Les yeux levés, il surveillait Mra, inaccessible pour l'instant.
« Sovréna, sorcier en chef !» dit Dorbo. « N'oubliez pas que toute attaque magique classique sera sans effet. En revanche, les runes sont conçues pour qu'un dresseur puisse utiliser certains sorts. Laissez-nous faire, et ce sera très vite terminé. »
Nietzsche se sentit aussi piégé que sa sœur d'élection. Mra avait choisi une bonne tanière, pourtant elle n'allait pas tarder à être découverte. Face au dresseur, la magicienne se sentait de taille, mais Thora et Maxime n'étaient pas des adversaires négligeables. En admettant qu'elle les neutralise et garde Mra en liberté pour le moment, qu'arriverait-il ensuite? La panthère ne pourrait pas se balader tranquillement en ville. C'était sans espoir. Les dresseurs invoquèrent leurs dons et combinèrent leurs efforts. Sur sa poutre, Mra avança et recula nerveusement. Quand elle rugit, Nietzsche se surprit à produire un son similaire. Influant directement sur l'esprit de la panthère, les dresseurs la forcèrent à bouger. Conditionnée depuis toujours, elle ne put résister et, pour souffrir un peu moins, sauta sur une pile de sacs en rugissant.
« Ce n'est pas un des fauves d'Ivan !»
cria un des dresseurs.
« Elle n'était pas parmi les bêtes révoltées d'hier. »« C'est une ancienne pensionnaire, » dit Dorbo. « Les rebelles ont dû la libérer il y a un sacré bout de temps. »
« Elle ne veut pas être ici, »
feula Nietzsche.
« Si vous l'attaquez, elle vous tuera, et je l'aiderai. »
Ignorant la magicienne, les dresseurs s'associèrent pour manipuler Mra. Alors qu'elle résistait, Nietzsche capta une part de la douleur qui lui vrillait les nerfs. Du coup, sa rage grandit en même temps que celle de sa sœur. Ivre de fureur, Mra sauta de la pile de sacs.
« Attention !»
cria Nietzsche. Pas pour prévenir les dresseurs ou les gardes. Hélas, la panthère venait d'entrer dans le jeu de ses adversaires. Un homme de Stuart ne s'étant pas écarté assez vite, Mra referma la gueule sur la cuirasse et la cotte de maille qui protégeait son dos. Blessé, l'homme tituba, mais la panthère ne lui accorda plus d'attention. Les dresseurs approchèrent, Dorbo levant ses doigts pliés pour focaliser le don. Avec leur magie spécialement conçue pour ça, les trois hommes forcèrent Mra à s'accroupir, puis tendirent leur bâton muni d'un nœud coulant. Faisant claquer son fouet, Dorbo toucha sa cible au flanc. De douleur, Mraz ébranlèrent avec ses griffes.
« Assez !»
cria Nietzsche. D'un simple sort, elle fit voler en éclats le bâton d'un des deux apprentis qui n'en crut pas ses yeux. D'un geste bref, Thora propulsa sur la magicienne blonde une toile d'air qui l'emprisonna et menaça de lui couper la respiration. Concentrés sur leur proie, Dorbo et l'autre apprenti continuèrent d'avancer. Après plusieurs essais, le dresseur au bâton parvint à passer son nœud coulant autour du cou de Mra. La surprise surmontée, Nietzsche reprit la maîtrise de son don, se libéra du sortilège de second ordre et s'offrit le luxe de le renvoyer à son expéditrice. De son côté, Mra était piégée, chaque mouvement servant surtout à lui couper un peu plus le souffle.
« Laissez-la !»
cria Nietzsche. Des boules de feu crépitaient au-dessus de ses mains, prêtes à carboniser leur cible. Passant aux choses sérieuses, Thora invoqua un mur d'air qui percuta Nietzsche de plein fouet et l'envoya valser contre le gros conteneur.
« Magicienne, cette affaire ne te regarde pas. Au contraire, Mra et moi nous sommes liés. »
Nietzsche tenta d'invoquer du feu de sorcier, mais Thora et Maxime combinèrent leurs forces pour la bloquer sous une masse d'air plus dure que de la roche.
« Ne t'en mêle plus !»
siffla Thora.
« Sinon Maxime te transformera en pierre !»
Nietzsche voulut hurler de défi, mais elle eut l'impression que sa tête allait exploser. S'écartant de la panthère, Dorbo venait de la frapper avec sa massue spéciale. Alors que les runes de Mra la protégeaient des attaques magiques, Nietzsche n'avait aucune défense contre un sort d'étourdissement lancé en traître. Tandis que la magie dévastait son esprit, lui coupant les jambes, deux gardes jetèrent un filet sur la panthère qui s'en mêla les pattes dedans. Un coup de massue, même sans support magique, la sonna pour le compte.
« On la tient !»
cria un des dresseurs.
« Nous avons réussi !»
Dès qu'elle eut repris ses esprits, Nietzsche lutta pour repousser l'attaque de la Sovréna et du sorcier en chef. Enfin capable de se relever, elle fit face à Thora, le don enroulé en elle comme un ressort sur le point de se détendre.
« Mra est une part de moi »
grogna-t-elle, prête à déchaîner une tempête de magie additive et soustractive. La Sovréna tint son terrain, plus froide qu'un blizzard hurlant dans la nuit.
« Cette panthère appartient à la reine d'Ildakar. Tu vois les runes gravées au fer sur sa fourrure? Cette bête est à nous. Non, elle est libre. »
Vaincue par les dresseurs, Mra gisait sur un flanc, du sang coulant de ses naseaux. Armes brandies, Stuart et ses hommes, anxieux, ne perdaient rien de la confrontation entre Nietzsche et Thora. S'il le fallait, ils choisiraient le camp de leur dirigeante, ça ne faisait aucun doute. Aucune importance. Nietzsche pouvait tuer tous ces gens si ça s'imposait. Thora crut le moment idéal pour tenir un sermon.
« Ta foi en la liberté est excessive. Les animaux ne sont pas libres, et les esclaves non plus. Tous les êtres inférieurs appartiennent à un maître. Devenue notre invitée permanente sous le linceul, tu dois comprendre les règles en vigueur à Ildakar. Demande donc aux sorciers de chair. Ces animaux existent parce que nous les avons créés. »
Nietzsche ne capitula pas.
Et si c'était eux, au contraire, qui avaient créé des monstres comme vous ?
Thora se prépara à frapper. Debout près de sa femme, Maxime contenait son don, mais il n'en restait pas moins menaçant. Près de la panthère inconsciente, les dresseurs aussi se concentraient. Nietzsche sentit toute la magie qui l'entourait. Du coin de l'œil, elle vit que les arbalétriers étaient prêts à la cribler de carreaux sur un simple geste de Thora ou de Maxime. Malgré sa haine et sa colère, la magicienne dut reconnaître qu'elle était battue. Chez André, Nathan gisait dans le coma, et nul ne savait s'il récupérerait un jour son don. En goguette avec ses nouveaux copains, Bannon brillait par son absence. Nietzsche mesura à quel point elle était seule à Ildakar. Impossible de combattre tous ces gens en même temps. Pour l'instant, en tout cas. La tête toujours douloureuse après le coup de massue, elle décida de prendre son temps.
« À l'évidence, il me reste beaucoup de choses à apprendre sur cette ville, »
dit-elle, sa voix claquant comme le fouet de Dorbo.
« Bien vu, oui, »
lâcha Thora.
« Essaie d'assimiler tout ça avant qu'il soit trop tard. »
Soulevant le filet, les dresseurs et les gardes emmenèrent Mra en route vers les terribles enclos de la reine.